Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Le 7 novembre a eu lieu à Guise la signature de la charte Ville et territoire sans perturbateur endocrinien. En compagnie de monsieur le maire, Hugues Cochet, avec André Chicolella, chimiste, toxicologue et président du réseau Environnement Santé. Retrouvons tout de suite Hugues Cochet.
C'est pour moi un moment fort que d'être présent aujourd'hui pour la signature de la charte d'engagement ville et territoire sans perturbateurs endocriniens. Je remercie bien évidemment le réseau Environnement Santé, ce qu'on appelle le RES,
voilà,
et son président, M. André Chicolella, qui en a également été le fondateur en 2009. Le RES, qui, je le rappelle, est à l'origine de l'interdiction du business...
Ah non, bisphénol.
Bisphénol, dans la fabrication des biberons. Aujourd'hui, vous êtes en première ligne pour dénoncer le ravage des perturbateurs endocriniens et aussi pour obtenir leur interdiction. Mais au-delà de l'action du RES, c'est un défi majeur à relever. C'est pourquoi la mobilisation des villes et des territoires est essentielle pour lutter contre ce fléau. Mais qui sont exactement ces perturbateurs endocriniens ? Ce sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle, étrangères à l'organisme, qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur cet organisme ou sur ses descendants. Ils sont une menace mondiale à laquelle il faut apporter une solution en fixant comme objectif de sensibiliser la population à leur exposition. Il paraît évident que l'appui des collectivités locales soit nécessaire par le biais d'un engagement. C'est par le biais de cette charte que nous le prenons pour définir un objectif, celui d'éradiquer les menaces sur le bien-être liées à la santé et à l'environnement. Les communes de la région des Hauts-de-France sont déjà nombreuses à être signataires, mais je dois souligner que la ville de Guise est la première de la région Picardie. En signant la charte, nous formalisons un combat engagé depuis plusieurs années contre ces substances néfastes pour la population. À titre d'exemple, nous avons déjà mis en œuvre la réduction de l'exposition aux perturbateurs endocriniens dans l'alimentation. Au niveau de la restauration scolaire, 25% des repas servis à la cantine sont bio. L'élimination de l'usage des produits phytosanitaires et biocides sur le territoire par la signature, le 25 avril 2016, d'une charte d'entretien des espaces publics à l'initiative de la région et de l'Agence de l'eau. La sensibilisation des personnels de la collectivité et des professionnels de la petite enfance de l'enjeu des perturbateurs endocriniens. L'utilisation de produits d'entretien écologiques et biodégradables. Il reste encore une marge de progression pour éradiquer complètement ces substances, mais c'est un sujet qui reste notre priorité maintenant et dans les années à venir. C'est à nous, Guisards, de montrer non seulement l'exemple, mais aussi de sensibiliser les citoyens. Près de 200 villes se sont engagées à rejoindre la charte. Je suis fier, en ma qualité de maire de la ville de Guise, de pourvoir à mon tour à signer aujourd'hui et de nous engager dans cette action. Merci de votre attention.
Retrouvons maintenant André Chicolella, président du réseau Environnement Santé.
Une grande partie de l'explication de la croissance des maladies chroniques qui est liée à cette exposition à ces substances. Alors, à la fois l'exposition à l'âge adulte, mais c'est le plus important, c'est l'exposition pendant la grossesse, pendant la période sensible de la grossesse, et notamment le début de la grossesse. Donc, j'exposerai tout cela un peu plus en détail tout à l'heure, mais je crois que c'est important que chaque citoyen comprenne l'enjeu de cette révolution scientifique qui est intervenue il y a maintenant à peu près 30 ans pour définir cette perturbation endocrinienne. Et parce que ça va à l'encontre, effectivement, du bon sens, entre guillemets, bien sûr, parce que dans ce cas précis, ça n'est pas du bon sens. Comprendre que les expositions, même de courte durée, à des produits qui peuvent apparaître tout à fait banals, vont avoir un impact sur la santé de l'enfant, du futur adulte, et même sur ses descendants. On a des données sur 3 générations aujourd'hui. Et les actes que l'on peut faire aujourd'hui vont impacter la santé de nos arrière-petits-enfants. C'est difficile quand même à comprendre. Et en fait, c'est ce qui se passe. Quand je pense à des grandes familles de polluants comme les PCB, ou les phtalates d'ailleurs, mis sur le marché dans les années 20, voilà, on a une étude qui est sortie récemment qui montre effectivement que ces PCB induisent de l'obésité sur 3 générations. Ben voilà, 3e génération, on y est. Hein. Et on voit effectivement la nécessité d'arrêter cet engrenage. Donc c'est important d'agir, parce qu'on peut agir. Alors parce qu'effectivement, quand on parle perturbateur endocrinien, on peut avoir tendance aussi à dire « c'est un peu oxygène tout ça hein. ». Mais je pense qu'il faut avoir un discours positif, et c'est possible, c'est nécessaire d'avoir un discours positif. On peut arrêter, faire reculer en tout cas une grande partie de ces grandes maladies qui touchent tout le monde. J'évoquais avant de notre discussion la question du cancer. Le cancer aujourd'hui, pour un homme en France, c'est une probabilité de 2 chances sur 3, enfin de chance au sens statistique du terme, hein, sur 3, d'avoir un cancer avant 75 ans. Une chance sur 3 d'en mourir. C'est quand même inacceptable. Là, on peut encore faire mieux. Les Australiens sont à 3 chances sur 4. Donc, au niveau mondial, mais on est déjà bien classé au niveau mondial. On est effectivement le 7e pays au monde du point de vue des cancers. Et les cancers qui sont plus directement liés aux perturbateurs endocriniens, cancer du sein et cancer de la prostate, nous sommes la quatrième au monde pour le cancer du sein. Et à partir du moment où on a compris ça, on peut agir. Et on peut et on doit agir. Je crois que c'est important que les collectivités locales s'engagent, parce qu'elles ont le contact avec les citoyens, peut-être. Mais on peut lutter avec de façon parfois simple, d'ailleurs. Dans les logements les plus ventilés, ben c'est là où la contamination est la plus faible. Bon, bonne nouvelle. Donc c'est pas très compliqué de ventiler son appartement. C'est important de le faire en début de journée, mais aussi en soirée, parce que la contamination peut être survenue pendant la journée. Les sols en PVC. Ouais, le sol en PVC, ça s'est développé, voilà, sauf qu'un sol en PVC, c'est 20 à 40% de phtalates. Donc si vous avez, en plus, le phtalate qui est utilisé, il a la particularité, lorsqu'il y a un peu un rayon de soleil qui va venir, effectivement, sur le sol, il a la propriété de se volatiliser. Et donc il va se redéposer après sous forme de poussière. Et donc vous avez la poussière qui va se... Alors, la poussière domestique, c'est le premier composant de la poussière domestique. Alors ça paraît banal, la poussière domestique, on vit avec. Hein. Mais sauf qu'aujourd'hui, une poussière domestique, c'est pas la poussière domestique d'il y a 100 ans. Hein. C'est une poussière qui est chargée effectivement de ce type de substance. Alors, l'exposition pendant la grossesse induit effectivement un taux supérieur d'asthme chez l'enfant. Alors l'asthme, voilà un problème. Mais on peut faire reculer une pathologie comme celle-là en agissant sur un environnement, un facteur d'environnement bien identifié comme celui-là. C'est central parce que ces maladies, je cite l'asthme, je cite l'allergie, je cite les cancers du sein, les cancers de la prostate, le diabète, l'obésité, les troubles du comportement. On a des données tout à fait importantes là aussi sur le lien entre les phtalates et les troubles du langage, par exemple. Les troubles du langage qui sont en augmentation et qui ont handicapé l'enfant. Alors, dans son parcours scolaire, mais plus largement après dans sa vie. Annonciateur d'autres pathologies. Ouais, donc on a là la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement on peut agir contre toutes ces maladies et pour certaines qu'on arrive à soigner mais qu'on ne guérit pas, ouais, c'est le cas du diabète par exemple. Et donc il y a vraiment un enjeu majeur de santé publique aujourd'hui de prendre le problème à bras-le-corps et c'est l'objectif de la charte. Donc vous voyez, la charte, ce n'est pas un label, hein, c'est un engagement sur une démarche. Et déjà en parler, sensibiliser, former les professionnels aussi. Et donc les enjeux effectivement d'une signature comme celle-là, ça, je pense qu'on a la capacité à partir de cette mobilisation de la société de rénover, de refonder des institutions comme celle-là.
Et c'est vrai que pour nous, j'ai dit tout à l'heure, c'est super important d'être les premiers, je dirais, en Picardie à signer cette charte, mais je suis content aussi parce que, comme vous l'avez dit, c'est qu'on travaille pour l'avenir. Et c'est ça qui est très important, c'est de comprendre que travailler pour l'avenir, les résultats ne seront peut-être pas maintenant, je dirais demain ou après-demain.
En partie.
Sur la longueur du temps, je pense que ça va amener quand même des choses très importantes et on est content. Ah, on signe la charte, voilà.
Après la signature de la charte Ville et territoire sans perturbateurs endocriniens par le maire de Guise et le président du réseau Environnement Santé, retrouvons notre expert chimiste dans un court extrait de cette soirée enrichissante sur les perturbateurs endocriniens.
Pourquoi on les appelle comme ça? C'est parce qu'ils perturbent effectivement le fonctionnement des hormones. Les hormones, c'est la messagerie chimique qui nous permet de vivre, en fait, hein, qui nous permet de nous développer, qui nous permet de réagir aux stimuli de l'environnement. Et ces perturbateurs endocriniens vont agir. Alors, les hormones agissent principalement à travers ce qu'on prend l'image de la clé et de la serrure. L'hormone vient se mettre sur le récepteur, et à ce moment-là, on envoie un signal qui va cibler sur telle molécule, sur telle cellule, et avec un développement de la cellule en fonction de la messagerie qu'elle a reçue. Donc vous avez des fausses clés, vous avez des fausses serrures. Voilà, c'est ça le principe. Mais Le perturbateur endocrinien va aussi agir sur la formation de la clé, sur la formation de la serrure, sur le transport. Donc il y a une multitude de possibilités d'action de ces substances. Et elles agissent à des niveaux très faibles. La concentration des hormones dans notre corps aujourd'hui, quand vous rentrerez ce soir dans votre piscine olympique, je pense que tout le monde a une piscine olympique chez lui, prenez un grain de sel. Prenez un grain de sel, vous le lancez dans la piscine, fouillez, et vous avez la concentration des hormones. Ça correspond à une dissolution d'un grain de sel dans une piscine olympique, vous vous rendez compte? Ça agit à des doses, des concentrations extrêmement faibles, mais ça marche bien, la preuve c'est qu'on est là pour en discuter, sinon on ne serait pas là. Et on sait effectivement comment agissent les perturbateurs endocriniens. Ils agissent sur l'expression des gènes. On parle beaucoup de génétique, on explique les maladies par la génétique. C'est une partie, mais une partie minoritaire en fait. Aujourd'hui on sait que ce n'est pas le mécanisme principal. Le mécanisme principal c'est l'action de l'environnement sur l'expression des gènes, qu'on appelle l'épigénétique. Voilà toutes les maladies qui sont générées par cette exposition perturbateur endocrinien, principalement lorsqu'il y a exposition pendant la grossesse. On a aussi des effets générés pendant liés à l'exposition à l'âge adulte. Le diabète, l'obésité, l'infertilité, le cancer de la prostate, les cancers du sein, la baisse de la qualité du sperme, les troubles du développement, le faible poids, la puberté précoce chez les enfants, obésité, asthme, notamment, hyperactivité. Donc ça fait beaucoup de choses. En fait, les grandes maladies aujourd'hui ont une composante qui est liée au perturbateur endocrinien. Mais la phrase à retenir, c'est la période fait de poison. C'est principalement l'exposition pendant les périodes sensibles. Et les périodes sensibles, c'est, comme je l'ai dit, la période de la grossesse, surtout au début de la grossesse. On peut avoir des effets plus forts en faible dose que fortes doses. La latence entre l'exposition et l'effet, c'est-à-dire que les effets surviennent, il n'y a plus de traces directes. Ça va survenir, vous avez une exposition pendant la grossesse, et puis des effets qui vont survenir 50 ans, 60 ans après. Donc il n'y a plus de traces directes, mais les traces indirectes sont gardées effectivement dans l'expression des gènes, et peuvent être transmis de génération en génération. Donc sur trois, on a des essais jusqu'à trois générations. La particularité de ces perturbateurs endocriniens, c'est qu'on les trouve dans les produits du quotidien. Et avec les perturbateurs endocriniens, on s'est aperçu qu'il y avait une autre source, la contamination chimique, qui n'était pas du tout de cette ampleur au XIXe siècle. On est passé, pour donner un chiffre, on est passé d'un million de tonnes en 1930 à 600 millions de tonnes. Vous éliminez au maximum l'usage des matières plastiques.
Voilà. Oui, apparemment, les bouteilles d'eau, il n'y a pas de souci.
Si. Ça dépend. Les bouteilles d'eau, c'est effectivement le numéro 1, c'est des polyéthylènes téréphtalates. On a une décomposition, effectivement. Mais par contre, celles qui sont en polyéthylène ou en polypropylène, à condition de ne pas les passer au four, hein, parce que ça, pas utilisé, la température là, va avoir un effet, sont moins contaminants en fait, que le PVC, entre le PVC ou le polystyrène, par exemple. Alors, il y a le code de recyclage qui vous donne. Vous avez le code de recyclage, le petit triangle qui est derrière, qui vous donne une première indication. Mais les matières plastiques, ça a l'air simple à partir des codes de recyclage. En fait, c'est un mélange. C'est à la fois c'est plusieurs polymères, c'est des adjuvants, toutes ces informations. Mais donc, les matières plastiques, c'est effectivement un mélange aussi. Donc on retrouve les mêmes substances utilisées dans les cosmétiques, les produits, les crèmes solaires, les anti-ultraviolets, on va les trouver dans les matières plastiques comme dans les crèmes solaires. Alors je n'ai pas parlé de cette famille-là, ça s'appelle les benzophénones, c'est qu'ils sont aussi des perturbateurs endocriniens. Donc le principe simple, c'est éliminer au maximum l'usage des plastiques. Vous voyez, je vous ai donné un chiffre, 119 perturbateurs endocriniens dans les emballages, c'est incroyable. On a des données, si vous allez au fast-food, on a mesuré le taux de phtalate avant et après. Une séance de fast-food, vous avez un taux plus élevé le lendemain. C'est quand même impressionnant. Quand même.
Pour tenter de conclure ce reportage sur les perturbateurs endocriniens, sachez qu'il est impossible, à moins de vivre chez les moines bouddhistes de Bhoutan, d'échapper aux perturbateurs endocriniens. Mais avec un peu de vigilance et de curiosité, vous pouvez y arriver. Simplement, évitez ce qui n'est pas naturel. C'était Franck Saint-Père pour RVM.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.